et médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Bonjour à tous, une librairie francophone pleine d'événements et d'inattendus aujourd'hui, avec un ancien président de la République, un ministre d'État, un académicien, un auteur en lice pour le Goncourt et deux stars de la musique malienne. C'est l'événement de la semaine, la sortie du nouveau Lucky Luke, signé Jules et HD. Pour la première fois dans l'histoire de cette BD belge, Lucky Luke fait le voyage en France à Paris. Nous serons pour cette occasion sur la Tour Eiffel, avec les auteurs, mais aussi avec le ministre français François de Rugy et l'ancien président de la République François Hollande, en exclusivité pour la librairie francophone. En plateau, nous recevons un académicien aujourd'hui également. Bonjour Marc Lambron.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous publiez un livre inattendu. Presque aussi inattendu que François Hollande qui parle de Lucky Luke. Vie et mort de Michael Jackson, c'est le titre de votre livre.
Oui.
Et vous décryptez le mythe Jackson entre ange et démon. Pourquoi ce travail littéraire autour de cet artiste américain, Marc Lambron ?
En fait, c'est lié à une exposition qui arrive dans 3 semaines à Paris,
ouais.
Michael Jackson et les artistes.
Ouais.
Et le Grand Palais a sollicité, considérant gentiment que j'étais un artiste, et après tout ce que les plasticiens ou les peintres peuvent faire, pourquoi pas solliciter subjectivement un écrivain pour faire la même chose. Voilà, donc je suis une sorte de plasticien de la plume.
Et vous vous sentiez à l'aise parce que vous connaissez bien son œuvre.
Je crois que, ouais. C'est que les académiciens sont gâteux et vieux, mais ils ont eu une jeunesse et des oreilles.
Marc Lambron de l'Académie française est dans la librairie francophone cette semaine. Il fait partie des favoris pour le prix Goncourt. Thomas Breverdi publie un roman palpitant sur la crise britannique de l'hiver 78. Un récit qui raconte l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher et la désillusion de la jeunesse. Et puis nous recevons deux stars de la musique malienne, Mamani Keïta et Pedro Kouyaté, deux artistes ouverts sur le monde et sur le croisement des cultures. Ils joueront un titre dans notre studio tout à l'heure.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et les libraires sont en multiplex avec nous, comme chaque semaine. Cap sur la Suisse, tout de suite, depuis nos studios de Lausanne, il y a Dominique Bressou, libraire à Boudry. Bonjour Dominique.
Bonjour Emmanuel.
Vous dirigez la librairie Une Petite Prose, tout va bien pour vous ?
Tout va bien.
Bien. Au Canada, c'est le pétillant Jérémy Lagnel, libraire à Rosemère, dans la librairie Carcajou. Bonjour Jérémy.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes le plus dur de tous les libraires. Nous verrons si vous confirmez votre réputation tout à l'heure. Bonjour Déborah Damblon.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes toute douce, vous êtes libraire à Bruxelles, dans la librairie La Licorne, et vous représentez la Belgique. Thomas Auxerre, tout doux aussi, libraire en France, à Puteaux, dans la librairie Lamandier, à proximité de la Défense à Paris. Bonjour Thomas.
Bonjour Emmanuel.
Et puis nous avons un invité en studio, comme chaque mois, un jeune lecteur vous conseillera un livre qu'il a particulièrement aimé. Bonjour Hugo.
Bonjour.
Tu as 12 ans,
oui.
Tu vas assister à toute l'émission à nos côtés et tu nous présenteras le livre qui te passionne en ce moment. Ça te va ?
Oui.
Bon, en forme ?
Oui.
La sortie d'un nouveau Lucky Luke est toujours un événement depuis l'époque de son créateur Maurice, puis avec tous ceux qui ont pris le relais. La semaine dernière, Dargo lançait le nouvel album de Lucky Luke, un cow-boy à Paris, au premier étage de la Tour Eiffel. Discours, cocktails, danseuses et ambiance très Far West, avec des invités triés sur le volet. Nous y étions pour un reportage exclusif avec les auteurs, mais pas seulement, vous l'avez compris.
My Lucky Luke ways. They hung up their guns and they jumped into the grave. 'Cause I'm a lonesome cowboy. Say, I'm a lonesome cowboy.
Voilà, la librairie francophone vous emmène sur la Tour Eiffel. On est au premier étage avec Jules et HD. Bonsoir HD.
Oui, bonsoir. Ben là, on peut dire qu'on a la ville lumière à nos pieds.
Hein. Oui, parce qu'on est de nuit. C'est pour ça que je vous dis bonsoir d'ailleurs.
C'est extraordinaire.
Et on a juste en face de nous le Trocadéro. Toute la ville de Paris, en fait, qui est face
la
à nous.
La lune qui nous fait l'honneur d'être pleine.
La lune rousse pleine. Ah, ouais.
Magnifique. On a vraiment beaucoup de chance ce soir.
On se croirait dans un album de Lucky Luke.
Alors, Jules, il est à fond. Bonsoir, Jules.
Bonsoir.
Comment ça va ?
Eh ben, très bien.
Vous êtes en pleine forme. Vous avez présenté l'album ici et vous avez déjà fait le show. C'est incroyable.
Mais oui, parce qu'en fait, on est quand même assez enthousiaste. Déjà, parce que reprendre Lucky Luke en tant que scénariste pour moi, en tant que dessinateur pour HD, c'est toujours une espèce de plaisir et une excitation. C'est quelque chose de patrimonial. C'est des tirages pharaoniques. Mais aussi parce que là, on a inventé une histoire qui nous touchait particulièrement. Parce que cette histoire du cow-boy qui vient à Paris, elle n'avait pas été faite, il n'avait jamais quitté le continent américain. Et là, cette rencontre de trois icônes, c'est-à-dire la Statue de la Liberté d'un côté, Lucky Luke et Paris en 1880, qui est un personnage romanesque en soi, c'est merveilleux. Donc, on fait venir... Alors, il ne voyage pas tout seul, hein, il voyage avec Jolly Jumper, qui est rebaptisé Jolly Jean-Pierre, évidemment, immédiatement par les Parisiens. Alors, il rencontre les garçons de café qui font la gueule, il trouve les embouteillages sur les grands boulevards, c'est Paris qu'on connaît encore aujourd'hui.
Les Parisiens ne sont pas du tout aimables avec Lucky Luke.
Non, on peut dire que là, on a la belle caricature de la francophonie dans toute l'Europe du monde, mais surtout de Paris. Mais bon, c'est vrai que là, nos cousins canadiens vont pouvoir dire vraiment maudits Parisiens, mais on se venge bien, donc on leur rend justice. C'est vrai que les Parisiens... Moi, c'était plus facile pour moi qui suis de la campagne
que pour lui qui vit à Paris. Dans le sud de la France.
Ah oui, moi, sud-ouest, moi, je suis en Gascogne, donc j'ai beaucoup de chance de ce côté-là.
On va s'approcher un petit peu. Vous n'avez pas le vertige
sur cette tour Eiffel. Si vous ne faites pas sauter.
Non, on ne saute pas. Et alors, regardez, levez la tête. Levez la tête, Julie HD. Vous connaissez la tour Eiffel qui s'illumine toutes les heures quand c'est la nuit. Et là, il est très exactement 20h au moment où on enregistre. Et il y a justement toutes les lumières. Et on est non pas devant la tour Eiffel qui clignote, mais à l'intérieur de la tour Eiffel qui clignote.
C'est quand même une ville extraordinaire. Mais on retrouve ça, je rassure tous nos amis francophones. Je vis le même plaisir quand je viens à Montréal ou à Québec, ou quand je vais en Suisse. Franchement, j'ai beaucoup de chance. Là, on voyage, on revient de Bruxelles. Donc, on a vu tous nos cousins francophones.
Qu'est-ce qu'ils disent justement les Belges, les Suisses, les Canadiens
ils sont chantés,
quand ils voient, alors surtout les Belges,
on
quand
se
ils voient
nous-mêmes.
Non, mais Lucky Luke de Maurice, oui. Auteur belge, dessinateur belge, qui voit en fait Lucky Luke à Paris,
voilà, il va à la rencontre de l'ancien monde, c'est le nouveau monde, la parodie de western hollywoodien qui est à l'origine Lucky Luke, qui vient rencontrer la littérature, le roman du 19e, et ça concerne tout le monde, évidemment tous les francophones qui sont amoureux de cette langue et de cette littérature. Et quand Lucky Luke arrive à Paris, tout le monde dit mais vous êtes un cow-boy belge, n'est-ce pas? Parce qu'il regarde sa tenue, puis se rend compte qu'il est habillé en noir, jaune et rouge comme le drapeau belge. Donc pour eux, ça fait pas un pli.
HD, le dessin, parlons-en, parce qu'il y a cette statue de la liberté que vous dessinez magnifiquement. Jules a raison, votre dessin est sublime. Vous êtes le digne, finalement, représentant de Lucky Luke aujourd'hui, le digne héritier de Maurice. Comment vous avez fait? Comment vous êtes baladé dans Paris?
En fait, non, j'ai une grande chance, c'est que j'ai une grosse bibliothèque et je suis un fan de photographie ancienne. Et nous avons une grande chance, c'est qu'en fait, la France a été quand même une des pionnières de la photographie, ne serait-ce que Niceforme Niépce, qui a quand même découvert la base de la photographie. Et donc, la première chose qu'on a photographiée dans le monde, eh bien, ça a été Paris. Et donc, on avait une iconographie qui était formidable. Et ça, je me suis beaucoup basé là-dessus. Mais je peux vous dire que ces poutrelles-là, je les ai quand même bien étudiées. Parce que quand il s'agit de dessiner la Statue de la Liberté, l'écorché de Statue de la Liberté, parce qu'il y a une poursuite épique dans la Statue de la Liberté, il s'avère que toute la structure a été créée par Gustave Eiffel. Et donc, c'est le même système de poutrelles que la Tour Eiffel, puisque finalement, ça a été un peu son galop d'essai. Faire une structure à la fois haute, oscillante et qui ne bougera pas complètement, mais qui permettra cette légère oscillation qui évite finalement qu'elle ne se brise ou suivant les assauts des éléments. Donc il a fallu que je retrouve les plans.
Eh oui.
Et on a retrouvé les plans.
Il y a un livre magnifique, hein, on peut le dire au passage, c'est Taschen, qui a fait un livre qui s'appelle La Tour Eiffel, et on voit tous les plans, tous les facsimilés, c'est incroyable, ce livre est dingue.
Et là, on voit le savoir-faire finalement de cet ingénieur fou qui s'appelait Gustave Eiffel, et moi qui ai eu la chance de voyager un peu partout dans le monde, on retrouve des ponts Eiffel, que ce soit au Vietnam, que ce soit en Auvergne, que ce soit même dans le Nouveau Monde, il y a des ponts Eiffel partout, c'était quand même un ingénieur extraordinaire.
Et on reste dans cette tour Eiffel, on est au cœur de la tour Eiffel.
Magnifique, merci, puis bonjour à tous nos amis de la francophonie. Émission que je suis régulièrement, parce que les dessinateurs BD sont très souvent branchés sur la radio.
Et je sais, ils nous écoutent beaucoup, on les salue au passage. On adore la bande dessinée dans cette émission, on la portera encore et toujours, et des grands dessinateurs comme vous, c'est toujours un honneur de vous recevoir. Merci HD.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Merci.
Et avant d'écouter l'ancien président français François Hollande parler de Lucky Luke, tournons-nous tout de suite vers les libraires. Déborah Damblon en Belgique, vous avez lu le dernier Lucky Luke? Alors ?
Eh ben, comme vous avez dit, hein, faire voyager Lucky Luke et même Jolly Jumper et les envoyer à Paris, ben, fallait oser. Et je suis sûre que, comme moi, il y a des tas de lecteurs conservateurs ou de lecteurs belges qui ont froncé le nez rien qu'à l'idée. Mais en fait, ben, chapeau, hein, parce que tout est là dans la BD de notre enfance. Mmh. Et puis, surtout, surtout, le légendaire second degré de la série que ne renierait certainement pas Goscinny et Maurice.
Merci Déborah. Pour la Suisse, Dominique Bressou, fan de Lucky Luke.
Oui, moi j'étais tellement ravie au départ de retrouver Avrel et Jolly Jumper, qui sont clairement mes préférés. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis après, c'est vrai que l'originalité de l'intrigue, ça tranchait avec ce qu'on connaît. Mais en fait, on est très vite rassuré parce qu'avec un cliché parisien à peu près à chaque vignette, c'est vraiment mais délicieux, c'est addictif. Moi, j'ai beaucoup ri. Et pour moi, c'est un des meilleurs, sinon le meilleur Lucky Luke que j'ai lu.
Ah, carrément.
Ah, carrément.
Dis donc. Après les libraires, c'est l'ancien président français François Hollande qui parle de Lucky Luke en exclusivité. Écoutez.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
Bonsoir François Hollande.
Bonsoir.
Merci beaucoup Monsieur le Président d'intervenir dans la librairie francophone. Vous lisez Lucky Luke ? Vous êtes ici présent pour le lancement de Lucky Luke ?
Mais j'ai lu beaucoup Lucky Luke. C'est mon enfance, c'est mon adolescence. Et finalement, Lucky Luke nous a accompagnés tout au long de notre vie. N'imaginez pas que Lucky Luke aurait cette longévité, qu'il serait avec nous, y compris dans la dernière partie de notre existence. Donc on est très impressionnés. Et plus Lucky Luke nous montre des signes de vie, meilleur est notre état de santé.
Alors Lucky Luke à Paris, Lucky Luke en France, c'est une consécration pour vous ou on sort un petit peu du rêve de l'enfance que vous avez connu justement dans le Far West et tout l'univers de Lucky Luke aux États-Unis ?
À un moment, Lucky Luke, il devait être... dans le monde, hein. La mondialisation c'est aussi celle de Lucky Luke, dans le meilleur sens du terme d'ailleurs, parce qu'il apporte un peu d'ordre là où il n'y en a pas, hein. Un peu de paix, un peu d'humanité, un peu de sourire, donc il était important que Lucky Luke voyage.
Et ce qui est étonnant, c'est que Lucky Luke c'est un vrai personnage politique, je ne sais pas si vous avez remarqué. Lucky Luke, il est à la fois amoureux de la liberté et de la justice. Il est amoureux de la liberté comme les gens de droite, et il est amoureux de la justice comme les gens de gauche. Et je ne sais pas si vous remarquez, à la fin, c'est quand même souvent la justice qui triomphe.
Oui, mais il a un bon cheval.
Ah oui, c'est sur moi, oui.
Il faut avoir un bon cheval.
Et puis la politique, c'est un peu le Far West, monsieur le Président.
Oui, mais c'est toujours des méchants qui se glissent là où ils ne devraient pas être. Hein. Mais aujourd'hui, il y en a un, vraiment, aux États-Unis, donc il faut faire attention.
Et le cow-boy à Paris, il vient bientôt. D'ailleurs, le 11 novembre, il sera à Paris. C'est un autre genre de cow-boy et c'est peut-être un petit peu moins rigolo.
Et vous l'auriez reçu en tant que président de la République, évidemment, Donald Trump, puisqu'on parle de lui.
Il y a une règle qui est d'inviter le peuple américain. Le président des États-Unis, il est le représentant d'une nation amie, alliée. Donc, il n'y a pas de réserve à avoir. Après, sur le personnage lui-même, oui, il faut être sévère parce que ce qu'il fait ou ce qu'il défait... particulièrement inquiétant. Et lui, il est dans la logique du Far West. Mais le Far West, c'est tout près de nous, contrairement au nom qui est indiqué.
Quels seraient les Dalton dans la politique française, François Hollande ?
Il y en a beaucoup, au moins 4.
Il y en a plus que 4, c'est ça le problème.
Il y en a plus que 4. Pas de nom, donc.
Alors, si je dis petit, ça sera mal interprété.
Merci, monsieur le Président.
De Dalton.
Et voilà, Lucky Luke intéresse donc le monde politique. Tant de comparaisons sont possibles, le cow-boy écolo séduit au-delà même de ce que nous pouvions imaginer, à l'image également d'un ministre d'État français récemment nommé depuis la démission de Nicolas Hulot. Bonsoir Monsieur le Ministre.
Bonsoir.
François de Rugy, vous êtes ministre de la Transition écologique et solidaire, ministre français. Vous lisiez Lucky Luke quand vous étiez enfant ou encore aujourd'hui peut-être ?
Ah oui, je le lisais beaucoup quand j'étais enfant ou adolescent et je continue à lire des bandes dessinées, dont Lucky Luke, et aussi d'autres de notre ami Jules d'ailleurs. Mais je trouve qu'il n'y a pas d'âge pour lire des bandes dessinées, évidemment.
Est-ce que Lucky Luke est écolo ?
Alors déjà, il a remplacé sa cigarette par un brin de foin.
Il est presque végan.
Scandale. Il est presque végan. Oui.
Il se déplace à cheval. Mais
c'est non, pas mal. Oui.
Et il est souvent dans la nature, dans les grands canyons qu'il donne envie de découvrir. Mais moi, je trouve ça bien quand on fait passer y compris avec de l'humour et du recul, des petits clins d'œil avec l'actualité politique.
On disait avec François Hollande d'ailleurs, enfin, en tout cas c'est moi qui lui disais que la politique c'était un peu le Far West. Vous confirmez, François de Rugy ?
Je n'avais pas pensé à cette image, mais elle n'est sans doute pas totalement fausse. Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que parfois, il y a des gens qui se comportent un peu comme des cow-boys. Et c'est bien aussi que les politiques, quand on est en responsabilité politique, on sache prendre un peu de recul.
Mais dans la politique, il y a des Dalton, monsieur le ministre.
Alors maintenant que vous me le dites, je vais chercher qui sont les Dalton de la vie politique française.
Vous l'avez voulu
se demander qui jouerait le rôle de Rantanplan, mais là ça nous emmènerait assez loin.
Beaucoup trop près au contraire.
Ou qui est-ce qui doit aller au pénitencier, mais...
ouais, ça l'avenir le dira.
Oui, j'avais pensé à Rantanplan, mais je n'osais pas. Jules, vous voulez écolo, Lucky Luke aussi. Il y a eu des allusions d'ailleurs à l'écologie dans plusieurs albums de Lucky Luke.
Bien sûr, oui, c'est quelqu'un qui est proche aussi bien des Indiens que des gens qui vivent dans la prairie. Il y a pas mal d'albums qui font résonance avec des choses d'aujourd'hui. Et puis, bien sûr, quand on le fait venir à Paris, on repense à toutes ces questions, justement, la circulation. Il y a des blagues sur la circulation, les embouteillages sur les grands boulevards avec Jolly Jumper. Il hésite à emprunter les grands boulevards. Et puis, toutes ces questions, effectivement, de vie quotidienne, elles étaient déjà en gestation à la fin du 19e siècle. Et aujourd'hui, on fait les frais un petit peu de tout ça. Moi, je suis un peu un Khmer vert, vous l'aurez deviné. Donc, je suis heureux qu'il y ait le ministère de la Transition écologique qui soit là pour fêter aussi la sortie et solidaire pour fêter la sortie de cet album, parce que ça veut dire aussi quelque chose.
Il y a deux éléments de Lucky Luke qui sont très actuels, c'est le train comme facteur de progrès, c'est un personnage presque le train dans Lucky Luke en général, et aussi malheureusement la délinquance et l'insécurité, n'est-ce pas, justement les Dalton figurent du délinquant, et là malheureusement c'est un sujet qui est toujours d'actualité, y compris dans les transports en commun justement.
Merci monsieur le ministre.
Merci.
Le nouveau Lucky Luke, un cow-boy à Paris, sort donc ce week-end dans toutes les librairies du monde francophone. Vous allez le trouver partout, même en supermarché. Pensez, s'il vous plaît, à aller l'acheter chez un libraire indépendant. Ce sera le même prix, à quelques centimes près. Et vous soutiendrez un petit commerçant qui porte la culture. À suivre, Thomas Reverdy en lice pour le prix Goncourt. Et voici le tout nouveau titre de Gaël Faye, qui avait obtenu, lui, le prix Goncourt des lycéens pour Petit Pays. Il revient avec un nouvel EP qui vient de sortir. On l'écoute en duo avec la brésilienne Flavia Coelho.
La tête tourne en derviche, l'alcool assèche, un goût âpre en bouche, ma langue une lame dans une poche rêche. Le parquet craque sous nos semelles usées de gosses de riches, on fume sur la corniche, dedans la musique recouvre les causeries. L'amour riche, on s'en contente, les nuits sont fraîches, demain on dort, dimanche au temple, le pasteur ne fera que de faux prêches. On a la vie devant nous pour user nos cartouches. Dehors la ville est belle comme si j'étais un bateau mouche. Degré dans le rouge, des couples copulent sur la lune. Copine, c'est la luce, 15 ans d'âge transforme tes yeux en lagune. Embouteillage de filles devant les toilettes. Merde, j'ai confondu les noyaux d'olive avec les cacahuètes. On danse nos solitudes sur des rythmes binaires. Tous par terre, le cerveau dans la brume, y'a de l'humour dans l'air. Dans ces instants, bref, c'est le temps qu'on déjoue. Donc dis-moi à quoi on joue avant les lueurs du jour.
A situação aqui tá difícil. Faltando poesia, homem nenhum querendo compromisso. Pra trocar uma ideia, na moral é um suplício. O cara que fala em poesia estava esperando por isso. Na pista a gente dança, a temperatura é perfeita. É cedo, é meia-noite, a lua cheia. O seu perfume é da Gino de Paris. Se torce pro PSG. Aí o que falta pra tu ser feliz? Sol, vento na cara, chope gelada, biquíni, sandália. Mais uma noite no Brasil. Vamos a pé, caminhar na praia e cair na gandaia, nas ondas do amor.
Allonger la tête dans les nuages, la nuit bleutée. Lève les yeux là-haut, le ciel est à notre portée. Est-ce un drone, une étoile, oh, peu importe, fais un vœu. Le cadran essoufflé affiche une heure de couvre-feu. Cachaça, sucre canne, glaçon pilé. Mon petit cœur est un citron dans un mortier. Le ciel est clairsemé comme la piste de danse. Où sont passés les temps sereins, ont rien de porté à conséquence. un fragment de volupté, un parfum, une archive, une fragrance d'été. Une fumée suffocante, tes contours et mes pensées me fouettent comme une pluie battante sur le pas de passants pressés. Viennent des lueurs à la fenêtre, la nuit qui meurt pour voir un nouveau jour naître. Et comme le temps nous est compté, j'irai camper sur tes lèvres pour m'endormir à t'écouter.
Gaël Faye et Flavia Coelho, balade brésilienne sur la RTS, la RTBF, ici Radio-Canada et sur France Inter.
Les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Canada,
Radio-Télévision Suisse.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et bonjour Thomas Reverdy.
Bonjour.
L'hiver du mécontentement est un roman populaire à tous les sens du terme. Il raconte la crise politique et sociale de l'hiver 78-79 en Angleterre, avec l'arrivée au pouvoir de Thatcher. Mais il est très contemporain ce roman-là. On ne peut s'empêcher de penser d'ailleurs à ce qu'il vient de se passer au Brésil. Le triptyque chômage, violence, mécontentement qui conduit à une radicalisation politique.
Oui, Thatcher, elle arrive à ce moment où l'Angleterre est peu à peu paralysée par une grande grève et où le gouvernement est décrédibilisé. Les jeunes croient plus dans la politique, le chômage devient endémique, ça devient un chômage de masse, mmh. Un discours sur la crise qui se développe. Et effectivement, ce temps-là, en fait, on n'en est pas sorti, quoi. On a l'impression de vivre dans un monde thatchérien de temps en temps.
En tout cas, dans votre roman, on suit en parallèle l'histoire des événements de l'époque et la vie de Candice, qui a 20 ans et qui livre des plis à vélo. Elle suit des cours d'art dramatique et se prépare à jouer la pièce de Shakespeare, Richard III. Vous démontrez comme ça les corrélations entre les deux époques et surtout entre les deux personnages qui veulent prendre le pouvoir. Richard III et Margaret Thatcher, finalement.
Oui, en fait,
il y a quelque chose entre eux.
Cette jeune femme qui est l'héroïne du roman, elle a envie de se choisir un destin. Elle a envie de changer de rôle. Elle a envie de pas reproduire ce que faisait sa mère ou sa sœur. Ou elle a envie de sentir qu'elle est libre et qu'elle peut devenir quelqu'un. C'est pour ça qu'elle est comédienne et qu'elle rêve de devenir comédienne et tout ça. Et alors c'est vrai que ce rôle de Richard III, il arrive presque par un jeu de mots. C'est-à-dire c'est un éditorialiste du Sun qui appelle cet hiver de grève l'hiver du mécontentement. Et en fait il emprunte la phrase à Richard III.
Et le chaos s'installe en Angleterre. Thomas Reverdy, Thatcher comprend très vite qu'il faut occuper le terrain, qu'il faut aussi laisser monter la crise. Alors ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre des cours de diction, là où Candice, dans votre livre, répète sa pièce. Et toute la stratégie, c'est de se positionner au bon moment, au moment où il faut.
Oui, elle a une campagne incroyablement moderne et agressive. Elle est la première à faire appel à un cabinet de communication, par exemple. Elle fait une campagne très drôle. On pourrait presque dire punk. Je veux dire, elle est de son époque. C'est une jeune femme qui a envie de conquérir le pouvoir à la fin des années 70.
Elle dira une phrase clé aussi. En politique, si vous voulez que les choses soient dites, demandez à un homme. Mais si vous voulez que les choses soient faites, alors... demander à une femme.
Ouais, c'était une sacrée,
voilà.
Une sacrée.
Et tout bascule. Et il y a une autre phrase clé incroyable qui va faire basculer l'opinion. On en parle juste après les libraires Thomas Reverdy qui ont lu votre livre. Ils sont trois. Le Canada, la Suisse et la France. On commence par qui, Thomas?
Vous avez cité le Canada en premier. Allons-y.
C'est le plus dur.
D'accord.
Vous êtes prêts?
Bon,
allons-y. Jérémy Laniel, c'est à vous.
Oui, il y a beaucoup d'accents de musique punk dans ce livre-là, et il y a aussi un roman sans fausse note, si on permet le mauvais jeu de mots, mais aussi sans soliste, si on me permet de continuer dans la métaphore musicale. C'est un livre dont la construction devient rapidement assez évidente, hein? Un chapitre sur Candice, un chapitre sur Richard III, un autre sur la grève et Rebelote. Aussi intrigué que j'étais à la découverte du sujet, aussi ennuyé, j'étais malheureusement à la sortie du livre.
Thomas Auxerre, pour la France, vous n'êtes pas du tout d'accord?
Non, parce que pour ma part, moi j'ai été comblé par votre roman que j'ai beaucoup aimé. Pour moi, ça partait avec les ingrédients qu'il fallait aussi, hein, c'est-à-dire une bande-son très punk en amorce de chaque chapitre, une époque peu racontée en littérature francophone, et puis un fond historique et politique documenté. Alors moi je trouve que vous avez réussi le tour de force d'écrire un roman lumineux dans la grisaille anglaise, et puis en plus dans votre roman, c'est quand même que de la révolte que naît l'espoir, alors ça moi j'adore.
Dominique Bressou en Suisse, tranché. Allez-y, départagez-les.
Moi, j'avais déjà adoré le roman des évaporés en fait de Thomas Reverdy,
oui, oui.
Et j'ai retrouvé avec l'hiver du mécontentement cette impression d'immersion totale dans une époque et un lieu précis. Et pour les gens qui avaient 20 ans en 1979, c'est juste comme regarder une planète qu'on aurait quittée avec un télescope. Et même en passant de la petite histoire de l'héroïne à la grande histoire des puissants de ce monde, on ne se perd jamais dans votre roman et c'est passionnant. Et moi, je dis, j'espère vraiment que le Goncourt sera pour vous.
Oh là là, on ne dit rien, mon Dieu, ça porte malheur.
J'ai rien dit alors.
Il est dans les finalistes, oui, on vient de l'apprendre en plus. Il est dans les quatre finalistes, Omar Verdi. Avec ses grèves qui s'amplifient, ce peuple britannique qui se soulève, le gouvernement travailliste de James Callaghan ignore quasiment la crise. Et il y a cette autre phrase clé qui va faire basculer l'opinion véritablement, parce qu'il rentre de voyage, il est en Guadeloupe pour un sommet avec les chefs d'État, un sommet organisé par la France au sujet de la crise du pétrole. Il arrive sur le tarmac de l'aéroport à Londres, les journalistes l'assaillent et il dit une phrase malheureuse.
Oui, les journalistes lui disent alors que pensez-vous de la crise qui est actuellement en Angleterre? Et lui lui dit mais non, écoutez, je pense qu'il y a des problèmes plus importants. Et il dit crisis, what crisis? Quelle crise? Et ça, ça lui est, enfin c'est la fin pour lui. Ça lui est extraordinairement reproché parce que les gens ont vraiment l'impression qu'il est complètement à côté des problèmes des vrais gens, quoi.
Crisis, what crisis? C'est la phrase qui va faire la une du Sun. Et le groupe Supertramp sort en 1975. 4 ans avant, vous le racontez dans le livre, un album avec pour titre cette même phrase, comme un disque d'anticipation, comme une prémonition. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire un extrait de votre livre, Thomas Reverdy, sur la musique de Supertramp, extrait de cet album, avec un académicien qui est juste à côté de vous, et c'est Marc Lambron qui a accepté. On envoie la musique de Supertramp et vous lisez Marc.
À Hyde Park, à Londres, à toute heure du jour et malgré la météo, une foule de jeunes gens se presse. Ce sont des étudiants, des squatteurs, des intérimaires, des musiciens, des barmen. Ils parlent, ils discutent, ils font des discours. Ils refont le monde comme si on allait le leur donner. L'hostilité grandissante des médias à leur égard ne fait que renforcer le mouvement. Pourtant, ils ne sont pas là pour ce que les vieux syndicalistes appellent la convergence des luttes, ou pour faire avancer la cause révolutionnaire de quelques-uns, ou encore pour obtenir une augmentation de salaire et rentrer dans le rang une fois de plus. Ils sont là parce qu'ils sentent que se joue quelque chose ici, maintenant, que la décennie s'achève et que le vent d'un hiver terrible est en train de tout emporter.
Il y a toute une bande originale du roman dans votre livre, en annexe Thomas Reverdy. Après cette lecture magnifique de l'académicien Marc Lambron, ça vous fait plaisir, je suppose?
Ah oui, j'étais surpris et ravi, et merci beaucoup.
Chaque chapitre est le titre d'une chanson. On y croise David Bowie, les Pink Floyd, les Clash, les Sex Pistols, Joy Division, Marianne Faithfull, et j'en passe. Vous vous êtes fait plaisir?
Oui, et puis c'était un peu nécessaire, c'est-à-dire pendant l'écriture du roman, j'avais besoin de quelque chose qui me rattache à cette époque et au Londres de ces années-là. Et le fait d'aller à Londres aujourd'hui n'est d'aucun secours parce que la ville a énormément changé. Et en revanche, cette musique anglaise des années 70, dès les 3 premières mesures, on y est, quoi. On sait qu'on est
ça,
là.
Ouais. En tout cas, c'est un livre engagé, hein, Thomas. Vous décrivez la politique de Thatcher comme étant la genèse des inégalités actuelles, de la violence économique, de la façon aussi dont on traite les syndicalistes, dites-vous, comme des terroristes. La société n'est plus là pour protéger. Elle encadre, en fait, des individus qui doivent se débrouiller tout seuls et être aisés, de préférence.
Oui, j'imagine que c'était pas si clair à l'époque où on le vivait. Hein. C'est le fait de l'écrire maintenant, en fait, qui donne ce recul et qui permet de le juger ainsi. Parce que, dans le fond, je crois que Thatcher, elle avait une espèce de mission de lutte contre le communisme. On était en pleine guerre froide. Elle a notamment aiguisé les armes économiques, les armes politiques et économique du libéralisme, elle les a radicalisés en quelque sorte pour lutter contre le communisme. Le problème, c'est que quand le mur de Berlin est tombé, ce libéralisme radical, il s'est déversé sur la planète. Quoi.
Voilà, c'est un livre sur la liberté aussi, Thomas. La liberté de dire non, la liberté de ne pas se battre, la liberté de renoncer et de partir ailleurs. On va s'arrêter là, sinon on raconte tout. Merci beaucoup, Thomas B. Reverdy. L'hiver du mécontentement est paru aux éditions Flammarion.
Merci
Thomas. Vous faites partie des 4 finalistes du prix Goncourt. On vient donc de l'apprendre, je le redis, j'espère donc que la librairie francophone vous portera chance.
Merci.
La chronique des libraires avec un coup de gueule tout de suite, Thomas Auxerre en France.
Eh ben oui, absolument Emmanuel. Alors figurez-vous que la rentrée scolaire vient de passer. On peut faire nos retours de livres scolaires. Et alors figurez-vous quelque chose qui m'agace profondément, c'est que les éditeurs nous obligent à ne renvoyer que maximum 5% des livres. Donc vous allez me dire, oui, bah c'est pas très grave. Bah si, parce que nous ça met en danger la trésorerie. Mmh. En plus ça favorise Internet et puis les grandes surfaces spécialisées. Et puis ça, on oblige les gens à faire payer le livre à l'avance. Enfin vraiment, c'est pas sympathique pour nos clients. Donc moi ça m'agace. S'il vous plaît, les éditeurs de livres scolaires, faites quelque chose.
Pourquoi ça avantage les autres?
Bah parce que eux, ils l'ont sur Internet et surtout les géants d'Internet, eux, ils peuvent renvoyer comme ils veulent les livres scolaires.
Ah oui.
Ouais, c'est que pas pour vous. Bah non, pas nous.
C'est honteux.
C'est honteux.
La douceur de Dominique Bressou en Suisse et un petit coup de cœur, Domi. Je peux vous appeler Domi?
Oui, je vous en prie.
Soyons intimes, allez-y.
Moi, j'ai eu un coup de cœur pour le mal occidental. En fait, et quand je dis que j'ai un coup de cœur pour le mal occidental, donc comprenons-nous, je parle du livre de Philippe Testa, parce que, en fait, l'homme postmoderne, donc le mal occidental, extrêmement bien décrit par Philippe Testa dans ses nouvelles, est plutôt odieux, en fait. Et avec beaucoup de lucidité, une pointe d'humour, l'auteur vise et touche sa cible à chaque fois. C'est à lire absolument.
Et c'est aux éditions Hélice, hélas. Merci beaucoup Dominique. Autre coup de gueule, Jérémy Lagnel au Canada, ça faisait longtemps.
Oui, voilà, on est rendu dans ce grand carnaval de la biographie juste avant les fêtes, après la rentrée littéraire.
Ah oui.
On est dans quelque chose d'un peu plus médiocre, hein, où toutes les grandes vedettes décident de sortir un livre qu'ils ont fort probablement pas écrit pour gagner la course au sapin de Noël. Alors on voit ici là, au Québec, on a Denise Bombardier, on a Jean Chrétien, Michel Courtemanche, et ça ne fait que commencer, il y en aura plein d'autres qui arriveront. Donc voilà, c'est ce grand carnaval que je déplore encore et toujours, et ça va revenir l'année prochaine, comme d'habitude.
Ah ouais, on n'en peut plus des biographies, vous avez raison. Voilà. On termine avec la Belgique, un coup de cœur dans le rayon des livres pour la jeunesse. Déborah Damblon.
Oui, oui, dans le rayon des livres et pour une très très belle initiative qui vise à faire lire des ados. Bah oui, vous aimez ça aussi, hein, puisque vous en avez un près de vous.
Oui.
Alors la RTBF, la première, et le Fonds Victor se sont mis ensemble pour promouvoir la lecture auprès des jeunes adolescents.
Ah, c'est bien.
Et pas n'importe... Ah ouais. Et pas n'importe quelle lecture. Parce que des romans belges ou des auteurs belges pour la jeunesse. Alors on a sélectionné 5 titres à dévorer dans 5 genres différents. Alors si vous êtes un groupe, même si vous êtes tout seul, Emmanuel, vous pouvez participer, vous êtes jeune dans la tête.
Oui,
et puis
vrai.
Si ça vous tente, eh bien posez votre candidature et on vous enverra la sélection. Et alors, allez-y, hein, lisez jeunesse.
Lisez jeunesse, il faut avoir entre 12 et 15 ans, c'est ça?
Voilà,
c'est
comme
parfait,
vous.
Je suis dans la tranche d'âge.
Comme
moi. Merci Déborah. À suivre un jeune auditeur justement de 12 ans qui vous donnera son coup de cœur littéraire. Ça va Hugo?
Oui.
Tu as de l'eau?
Oui.
Oui. On t'a bien traité?
Oui.
Parfait. Et puis Marc Lambron aussi de l'Académie française est avec nous, vous l'avez entendu, pour parler de Michael Jackson. Avant cela, voici un duo malien inédit. Pedro Kouyaté sort son album le 9 novembre. Sur ce disque, il y a 3 duos avec la grande Mamani Keita. Ils sont dans notre studio tous les deux pour jouer un titre. C'est exceptionnel. Pedro Kouyaté et Mamani Keita sont installés. Ils interprètent Camillo pour la librairie francophone.
Même mon argent.
Nina Bisset, tape-moi Bisset, oui. Yo, yeah, almighty. I've given you all my money, my time, but every day, every time,
Mamani Keita avec Camillo sur votre radio francophone dans notre studio. Enlevez votre guitare, Pedro, Mamani Keita. Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci à vous.
Bonjour Mamani. Comment allez-vous?
Très bien.
Ça va?
Ça va très bien.
Pedro Kouyaté, alors cet album, il sort vendredi. Il y a les collaborations d'Oxmo Puccino, de Rosé, de Jean-Jacques Milteau, de Lansiné Kouyaté, entre autres. Vous aimez croiser les genres et les cultures. Vous dites être fier d'être africain tout en aimant la diversité. C'est ça le propos.
Voilà, le fond de l'air n'est pas frais quand tu appelles Mamani. Jean-Jacques Milteau, c'est une belle histoire. Oui. Oxmo Puccino, il est malien de naissance. Très belle histoire, donc je suis ravi. Et le fond de l'air n'est pas frais. Quand vous, que j'écoute chez moi, dans ma cuisine, je vous vois. Donc c'est déjà une voix et après un visage. Oui. Vous avez une belle voix.
Et un beau visage.
Oui. Voilà. Donc je suis ravi, je suis un gamin heureux. Quand le bonheur frappe à ta porte... Ton entourage, voilà, est ton miroir.
Bon, on est ravis de vous accueillir, Pedro, et de vous mettre comme ça en lumière avec cette grande voix, Mamani Keita, qui est incroyable, Mamani. L'identité composite, c'est aussi ce qui vous colle à la peau. Exactement. Le mélange, la découverte des musiques du monde, cela a toujours alimenté votre musique et votre œuvre.
Toujours, oui. Parce que, avec Pedro, quand j'ai été invité par Pedro, ça m'a surpris parce que moi, je connais Pedro déjà depuis au Mali. Ouais. Et en ce moment, il n'était pas encore musicien. Il avait quel âge? Peut-être 8, 10 ans.
Oui, c'est le gamin de la bande, en
Exactement.
Fait.
Exactement. Ouais. En tout cas, ça m'a fait plaisir de participer dans son album.
Il a collaboré, il a côtoyé, en tout cas, tous les grands musiciens. Hein, Toumani Diabaté aussi, je crois.
Oui, Toumani Diabaté, Balaké Sissoko.
Balaké Sissoko.
Et aussi des gens que vous ne connaissiez pas, mais qui vous ont peut-être écouté, qui vous écoutent encore. Oui. À l'Institut français de Bamako, il y a du monde qui passe, une sorte de librairie culturelle.
Oui, exactement. Il y a des librairies dans beaucoup d'instituts français. Il y a beaucoup d'émotions aussi, Mamani Keita, dans votre musique. À tous les deux, d'ailleurs, il y a une incarnation très forte. Quand on vous regarde, quand on vous écoute, il y a beaucoup d'émotions qui passent.
C'est vrai?
Oui.
Peut-être c'est Pedro qui peut parler sur ça, mais pour moi, c'est naturel.
Oui, c'est vrai que c'est naturel. Oui. Ça a l'air naturel. Bon, vous allez rester avec nous. On va parler de Michael Jackson. Okay. On attend bien sûr vos commentaires grâce à cette rencontre avec Marc Lambron, qui est juste face à vous, qui est ravi de vous voir. Et on en parle dans un instant avec vous.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Et voici notre séquence jeunesse avec un jeune lecteur français. Hugo a 12 ans, il est passionné de lecture. Tu es en quelle classe, Hugo?
Cinquième.
Ça se passe bien?
Oui, très bien.
Premier de la classe ou pas?
Non, pas, mais presque.
Presque, ouais, génial. Et tu vis à Rouen, en Normandie?
Oui, c'est ça.
Quel livre as-tu choisi alors?
Alors, le livre que j'ai choisi, ça s'appelle « Le retour de l'oiseau tonnerre, une trilogie fantastique » de Anne Robillard.
Ah oui, québécoise.
Oui.
Une auteure québécoise, oui.
L'histoire, c'est Logan, un jeune homme sans histoire, qui va revivre ses vies antérieures afin de devenir meilleur pour sauver le monde. J'ai adoré ce livre parce qu'il était dynamique, avec beaucoup de rebondissements, parce que c'est plusieurs histoires dans une. Il va être à la fois élève, professeur, femme, adulte, enfant, homme, voilà. Le rythme n'est jamais lent et c'est ça aussi que j'ai fait que j'ai adoré ce livre. C'était un livre fantastique, comme je l'ai dit, mais assez suffisamment réel pour y croire.
Ouais.
Et pour finir, j'ai trouvé ce livre mélancolique et triste.
Ah bon ?
Parce que quand il ne réussit pas à devenir meilleur, bah ça le rend triste et je trouvais qu'on bah le
c'est un peu comme toi quoi. Si tu n'es pas voilà, le meilleur de la classe, ça te rend triste,
non, non, mais non.
Mais oui, tu t'es retrouvé en fait, c'est
voilà,
ça ?
Voilà un petit peu.
Ouais. Le retour de l'oiseau tonnerre, le volume 3, hein, c'est celui-ci que tu as lu,
c'est
tu
ça.
Les as tous lus, je
suppose. Les 3, oui.
Ouais, voilà. Anne Robillard, c'est aux éditions J'ai lu, c'est donc en livre de poche et elle a un grand succès Anne Robillard. Donc très bon choix Hugo. Merci.
Merci.
Merci beaucoup. Si comme Hugo, vous souhaitez intervenir dans cette émission et que vous avez entre 12 et 17 ans, contactez-nous par mail la librairie francophone @radiofrance.com ou sur ma page publique Facebook. Et nous serons au Salon du Livre de Montréal le 15 novembre. Nous cherchons d'ailleurs un jeune ou une jeune lectrice, avis aux auditeurs du Québec. Vous serez invité au salon par la production et vous assisterez, comme Hugo, à l'émission. Il était bien Hugo, hein, Marc Lambron ? La vie d'un académicien.
Le retour de l'oiseau tonnerre, tel qu'il l'a décrit, c'est un portrait de Michael Jackson.
Oui, c'est vrai.
La multiplicité, les profils, l'incertitude sur le genre, le voyage à travers le temps. Nous venons de jacksoniser.
Quel professionnel, Marc Lambron. Quelle transition magnifique. Ah. Merci Hugo, merci beaucoup, merci.
La librairie francophone, Emmanuel Quérade.
Marc Lambron se jacksonise dans la librairie francophone pour Vie et mort de Michael Jackson. Dans votre livre, vous parlez de ce titre que l'on entend en ce moment comme étant un manifeste musical. Tout est là quand on entend ce titre.
Oui, pour moi, c'est une sorte de cubisme musical. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont fondues avec l'aide de Quincy Jones, hein, qui était le grand arrangeur, qui avait étudié à Paris, d'ailleurs, avec Nadia Boulanger. Donc ça vient de loin, ça vient presque du Moyen-Âge. Mais ça passe par Ray Charles. Et qu'est-ce qu'on entend ? On entend un artiste jeune qui est en train de prendre possession de son art et de son époque. Parce que les sons analogiques sont là. Déjà. Et en même temps, il y a le soul Makossa qui est là de Manu Dibango.
Ah bah oui, grande histoire, donc, procès, etc. Hein,
Michael ouais. Jackson, c'est beaucoup ça. C'est des hybridations, c'est de la sorcellerie de studio. Ouais. Et pour finir, quand même, c'est de la danse.
Et vous dites que Michael Jackson invente les demoiselles d'Avignon du funk.
Oui, je vois ça comme une sorte de Picasso du funk parce qu'il y a des renversements de perspectives musicales dans ce morceau.
Et l'autre pilier de cet ovni Jackson, c'est l'intégration de l'image et la nouvelle façon de faire du vidéoclip à un film culte. Comme disait Steve Jobs, c'est une révolution, ça en est vraiment une là, c'est une révolution musicale.
C'est-à-dire que Michael Jackson incorpore beaucoup de choses. S'il avait été muet, il aurait été un grand danseur. Mais il est un grand danseur et un grand chanteur. Ouais. Mais il est aussi, avec Quincy Jones, quelqu'un qui concocte, qui compose sa musique, qui la synthétise. Et enfin, il coïncide en effet avec l'ère du vidéoclip. Et on voit très bien, surtout avec l'album Thriller, 1983, l'effet de ce premier vidéoclip de 15 minutes, ce qui n'avait jamais été fait, et qui ajoute des images au son, au point que une musique devient indissociable de la mythologie visuelle qui l'accompagne.
Alors tout ça, on le sait, hein, je dirais Marc Lambron, mais ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous mettez en perspective et en alternance, comme ça, des portraits de personnalités mondialement connues. Par exemple, Fred Astaire, qui après avoir assisté au tournage de Thriller, enverra un télégramme à Michael, vous racontez cette anecdote, il lui écrit « Je suis un vieil homme, j'attendais la relève, merci ».
Oui, ce qui m'intéresse, c'est que Michael Jackson est une mythologie américaine et mondiale, et c'est une sorte de maison hantée. Soit par des personnages du passé, par exemple Barnum, la mise en scène du monstre, le cirque, qui apparaît sur la pochette de l'album Dangerous, donc c'est explicite. Oui. Il épouse la fille d'Elvis Presley. Ouais. Donc il y a des jeux, des entrecroisements, des hommages, des fantômes, et parfois des fantômes vivants, qui font la richesse de ce millefeuille, de ce mille-pattes, j'oserais dire, qu'était Michael Jackson.
Il y a surtout un avant et un après Thriller. Il y aura ensuite, chez Michael Jackson, un côté gourou qui veut porter une voix humaniste, mais ça ne marche pas toujours avec les affaires, avec tout ce qu'on sait, encore une fois. Mais il crée pourtant des hymnes comme ce titre, Heal the World. Heal the world, make it a better place.
Michael Jackson adorera s'entourer d'enfants sur scène pour chanter cette chanson. Pourtant, ses concerts, dites-vous, Marc Lambron, ils sont calibrés, prévisibles et juste contractuels. Une exhibition glacée.
Bah, il y a beaucoup d'aspects chez Michael Jackson. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est une sorte d'UNESCO sucré.
Oui.
Moi, je préfère le Michael plus diabolique, plus zombie. Mais c'est vrai que je l'ai vu en concert, je crois en 1992. Et le soupçon, c'était le playback, c'était le lip sync, comme on dit. Et en effet, maintenant, il est confirmé qu'une partie de ses concerts.
Ouais.
Pourquoi d'ailleurs? Parce que c'est des concerts très chorégraphiés. Donc, quand il y a une chorégraphie, vous ne pouvez pas improviser, vous ne pouvez pas dévier de ce qui a été travaillé. C'est très formaté.
Mais je l'ai vu aussi. C'est incroyable parce qu'on voit le playback parfois.
Et on le voyait parfois. Alors que quelqu'un comme Prince, par exemple, qui était lui un grand guitariste, que n'était pas Jackson, évidemment, s'autorisait toutes les écarts, toutes les improvisations, toutes les sorties de route sublimes.
Jackson va créer un univers artistique et un monde autour de lui, avec son centre névralgique Neverland. Vous posez cette question, page 55, Marc. Avons-nous été vampirisés par Michael Jackson ?
Oui, je crois que Michael Jackson, c'est à bien des égards le bal des vampires.
De quelle façon on a été vampirisés ?
On a été vampirisés par le charme d'abord, parce que la séduction, la force de sa musique, l'impact des images, et nous le sommes tellement que c'est aujourd'hui le mort le plus productif du show business mondial.
Pedro Coyote, Mamani Keita, avez-vous été vampirisé par Michael Jackson, ou en tout cas influencé Mamani Keita ?
Franchement, influencé par lui, parce que pour moi, c'était le roi. Et est-ce qu'il va y avoir un deuxième Michael Jackson?
Mais c'est ça.
Jamais.
Compliqué.
Pour moi, c'est jamais.
Pedro Coyote.
Ben moi, c'était souvent quand on refusait d'aller se coucher. Il y a une autre tante qui mettait une cassette où il y avait les morts qui sortaient de tombe. Vous voyez?
On vous endormait avec ça, vous.
Oui, parce que dès que tu vois la main déjà sortir, tu vas te coucher. Quoi. Ah, mais c'est la dite.
Vous l'avez rencontré, Mamani Keita?
Pardon?
Vous l'avez rencontré, Michael Jackson?
Jamais. C'était mon rêve d'aller assister à un de ses concerts, mais bon.
Certains ont dit qu'il a pillé la musique africaine. Qu'en dites-vous?
Avant d'arriver d'abord à Michael, il faut arriver aux personnes qui ont construit Michael. Il y avait un Français dans l'écurie de Michael. Au fait, il faut parler de Quincy Jones, comme il a dit, qui a eu à aller en Afrique.
Oui,
avec Charlie Mermet, qui est le père de Daniel Mermet. Ils ont été à l'Independence Hotel à Brazza. À l'époque, Mani Dibango était musicien de l'hôtel.
Ils ont rapporté des choses.
Non, ils ont vu d'abord des gens. Ouais. Ils ont vu des gens qui dansaient, qui jouaient. À l'époque, c'était des orchestres de gouvernement. C'est qu'ils ont compris plein de choses.
Et
la rencontre de Michael vient de là, avec Mani Dibango. Donc, on a été volés, mais aussi, on a été chanceux d'être mis en lumière par des gens comme eux.
Ouais, c'est ça. On va voir la vie de nos libraires sur votre livre, Marc Lambron. Il y a le Canada et la Belgique. On va commencer avec le plus compliqué, parce que Jérémy Lagnel, aujourd'hui, il est énervé, Jérémy.
Bon, hein. Mais je croyais me plonger dans un livre niché, hein, je dois le dire, avec la crainte d'avoir à faire une analyse jacksonienne pour initier seulement. Mais à ma surprise, je suis tombé dans un livre de fan, là où je n'attendais pas du tout l'académicien Lambron. Et si le livre se laisse lire, je dois avouer qu'après avoir lu un livre qui m'ennuyait, celui-ci m'a malheureusement inintéressé.
Oh là là, mais qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Vous êtes terrifiant. C'est Swiller, en fait, Jérémy Lagnel. Déborah Damblon, en Belgique, vous n'êtes pas d'accord. Billie Jean, allez-y.
Ben non, pas vraiment, parce que Michael Jackson, c'est un mythe, d'accord, personne ne remet ça en question, surtout pas moi. Mais de là à en faire un livre intéressant, de là à mettre en perspective une vie de star, une vie d'humain, et puis de là à réussir un ouvrage cérébral, eh ben, il y a un pas que vous avez franchi, je trouve, avec talent. Et votre livre, bon, moi je trouve qu'il se lit avec intérêt et avec plaisir. Je l'ai fait et franchement, c'était pas gagné. C'est un ouvrage franchement littéraire qui est écrit avec finesse, je trouve.
Oui, exactement, je suis d'accord avec vous, Déborah. Félicitations, Marc Lambron. Vous racontez à la fin de votre livre, avoir cherché dans l'œuvre de Michael Jackson un moment où il aurait baissé la garde. Et selon vous, c'est ce passage, le début de la chanson Smile. C'est une chanson qui fait comme si, mais qui semble avouer enfin que l'enfance, sans cesse appelée et simulée, ne reviendra pas.
Oui, vous savez que c'est une chanson de Charlie Chaplin, hein, écrite par Chaplin. Donc déjà, il y a quelque chose comme le clown triste qui est dans cette chanson. Et il l'aborde à la fin de History, qui est une sorte de double album très auto-glorificateur. Et puis là, soudain, j'entends quelque chose de désarmé. Il enchaîne deux titres lents. Et là, je sens qu'il y a quelque chose qui comme s'il savait que, comme s'il abdiquait finalement le désir d'enfance. Elle ne reviendra pas, et c'est un hymne, c'est une sorte de requiem pour moi, pour des choses perdues et l'acceptation, c'est un inéluctable. Je l'entends comme ça.
Cette chanson très mélancolique, avec ce mot smile, le sourire, c'est très antagoniste. Et vous concluez ce livre, Marc Lambron, en disant « Michael a tout réussi, Michael a tout merdé ». C'est pas très Académie française ça, Marc Lambron?
Bah, le mot que vous venez de dire est dans l'académie, et dans le dictionnaire, pardon.
Oui, c'est vrai.
Et, juste avant, je dis que c'est par référence à la fin de Easy Rider, vous savez, qui est le film sur les désillusions des idéaux hippies. Et Peter Fonda, à la fin du voyage en moto, dit « We blow it », c'est-à-dire nous avons tout raté, nous avons tout merdé, si on le dit. Et au fond, voilà, c'est un héros positif, Michael Jackson, et en même temps, quel gâchis. Il aurait eu 60 ans en août dernier.
Le 28 août, oui.
Le 28 août. Donc nous pourrions encore être dans le chant de la voix jacksonienne, et puis c'est déjà un deuil, et donc aussi le temps de l'art, parce que ce qui va être montré au Grand Palais, c'est comment il est devenu un artiste fécondateur de peintres, de vidéastes, de musiciens, de plasticiens, etc.
Merci beaucoup Marc Lambron, votre livre « Vie et mort de Michael Jackson » est paru aux éditions de la Réunion des musées nationaux. Une exposition se tiendra donc à Paris au Grand Palais à partir du 23 novembre, « Michael Jackson on the wall ». Merci beaucoup. Merci Marc, merci Thomas Reverdy, Pedro Coyaté, Mamani Keita, à très bientôt.
Merci.
Merci.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici le duo français Terre Noire et un extrait de La Nuit des Parachutes.
La vie t'offre des shots, des nuits en parachute, des danses au dos de papillons chimiques. La rue dresse des chutes. Elle te dit vas-y saute, vers la terre on ne sera plus là. Vas-y saute, vas-y saute, vas-y saute dans la nuit des parachutes. Vas-y saute, vas-y saute, vas-y saute. Vas-y saute, vas-y saute, vas-y saute dans la nuit des parachutes. Vas-y saute. Vas-y saute, vas-y saute. Tu danses, tu te libères, Berlin te tambourine. Perdasse sur les paupières, Oline. Ça y est, ça vient de grâce. La vie s'efface, enfin la porte délaisse. Aride, terre de l'extase, laisse sur ton visage des bons cœurs, des cratères, des amours à la mer. Chevauché par la pâche et ce flash d'aile qui se déhanche.
Terre Noire avec La Nuit des Parachutes, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation, Étienne Bertin avec Hélène Bizio, Jérémy Guillon et Ronan Maé. À la rédaction, Jean-Philippe Verret avec Christophe Magère en France, Martine Béguin-Follet et Annick Chouin en Suisse, René Mikkels avec Valérie Le Put en Belgique, Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, une rencontre exclusive entre l'écrivain suisse Joël Dicker et le cinéaste Jean-Jacques Hano pour l'adaptation en série télé de La Vérité sur l'affaire Harry Kéber. Un reportage aussi à Bruxelles avec Thomas Lavacherie, grand nom de la littérature jeunesse, et David Diop en lice pour le prix Goncourt, le prix Renaudot, le prix Femina et le prix Médicis, rien que ça. Passez une bonne semaine, un beau week-end. À bientôt, salut.